Philosophie première par le père Philippe à Saint-Joseph, le 8 février 1988.
On me pose cette question. Ne peut-on pas dire que la volonté est découverte par induction? Question critique. C'est très souple l'induction. J'allais dire, c'est une induction seconde qui présuppose la grande induction de la découverte de l'âme. Ayant découvert l'âme comme source radicale de toutes nos opérations vitales, nous pouvons dire qu'en présence de la diversité de nos opérations vitales, nous posons un principe propre de ces diverses activités vitales. Et dans la mesure où nous posons un principe propre, il y a bien une induction. On remonte à la source, puisque l'induction, c'est remonter à la source. Et c'est découvrir ce au-delà de quoi je ne puis pas aller. Ça, la découverte d'une source. Parce que si vous allez au-delà de la source, il n'y a plus de source. Il faut mettre le doigt dessus. Hein. C'est très curieux, du reste. Alors, c'est une analyse avec une certaine interrogation pour comprendre le pourquoi de cette opération. C'est pour toutes les opérations vitales où nous posons un principe propre de ces opérations vitales, on peut dire qu'il y a une certaine induction. Il y aurait pas mal d'analogies à faire là-dessus. Je crois qu'en philosophie de la nature, en philosophie de la matière, on trouverait quelque chose d'analogue. On découvre d'abord le principe propre, immanent dans la réalité naturelle, puis en réfléchissant, on distingue dans ce principe nature, nature-matière, nature-forme. La découverte immédiate de la matière et de la forme, c'est l'analyse de l'œuvre d'art. Vous voyez, il n'y a que là où vous découvrez tout de suite la matière et la forme. L'œuvre d'art, vous le faites immédiatement, puisque vous voyez un cercle qui est fait en bois, un cercle qui est fait en airain, un cercle qui est fait en bronze. Vous voyez tout de suite que l'aïdos, la forme, est distincte de la matière. La forme est toujours la même, mais la matière est différente. Alors, y a-t-il une induction, là? Une simple analyse. Et c'est pour ça que c'est très souple, l'induction. Parce que quand vous analysez une œuvre d'art, quand vous analysez la dissertation d'un étudiant, œuvre d'art, évidemment, quand vous regardez la dissertation d'un étudiant, et vous dites, pour le fond, c'est très bien, mais la forme, lamentable. Quand le père Gardeil, Ambroise, le grand, dit je veux écrire sur la structure de l'âme, un livre qu'il faudra lire une fois dans votre vie, parce que c'est un très beau livre. Quand le père Gardeil dit dans sa préface, il y a diverses manières d'écrire, ou d'une manière claire et superficielle, ou d'une manière profonde et obscure, je choisis la seconde. Et en analysant, vous voyez qu'en effet, c'est profond et obscur. C'est pour ça qu'il faudra le lire. Vous analysez le fond et la forme. Y a-t-il une induction? Parce que ce sont deux co-principes. La matière est un co-principe de la forme, et la forme est un principe. C'est une détermination. Par la forme, vous remontez à la cause première de toute œuvre artistique, l'eidos, l'inspiration. Donc d'une certaine manière, il y a bien la découverte de deux principes. Sous ce point de vue-là, il y a bien une induction. Et vous voyez, cette induction est très très directe, puisqu'au fond, n'importe critique d'art pourra la faire tout de suite. C'est très proche uniquement d'une analyse, et dans l'analyse, on voit les éléments différents. Vous voyez, c'est pour ça que le mot, c'est très important du raisonnement ça, de voir toute la souplesse de l'induction. Vous avez des inductions, je crois que vous pourriez partir, vous voyez, si vous essayez de comprendre, partir de cette première induction de la découverte de la matière et de la forme dans l'œuvre d'art. Fond et forme. Le fond, c'est la matière. Puis la forme, c'est ce qui séduit. Il y a des gens qui ont un art de séduction extraordinaire et puis il n'y a rien dedans. Si vous analysez un tout petit peu, vous voyez que vraiment, c'est tout le temps contradictoire ce qu'ils disent. Mais il y a quelque chose d'extraordinairement brillant. Puis il y a l'inverse. Chez les artisans, chez les vrais artisans, c'est l'inverse. Tandis que chez les rhéteurs, c'est justement le propre du rhéteur. J'ai beaucoup d'avocats, c'est comme ça. Ils sont de grands rhéteurs. Vous êtes séduits sur le moment, puis après vous revenez et dites, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Il n'y a rien. C'est une crème fouettée. Ça peut monter très haut, mais il n'y a pas grand-chose dedans. Alors, je crois que lorsqu'il s'agit des opérations, des diverses opérations vitales, et la découverte du principe propre, il y a une induction. Elle est très, très rapide. Vous voyez, c'est là où vous voyez la différence entre le philosophe et le théologien. Saint Thomas ne se pose jamais l'induction pour saisir les vertus, la volonté, l'intelligence. Tandis qu'au plan philosophie du vivant, c'est dans la philosophie du vivant que vous êtes obligé de poser toutes ces inductions. Et c'est vrai, l'intelligence, on la découvre tout le temps. Le nous, ça se découvre tout le temps. La volonté, ça se découvre tout le temps. Vous n'allez pas dire, maintenant j'ai découvert ce que c'était que la volonté. Non. Tous les jours, quand vous faites un acte de volonté, pour vous lever, pour aller à l'oraison, pour venir ici après un cours, c'est un acte de volonté. Évidemment, vous suivez, mais quand même, un petit acte de volonté. Cet acte de volonté que vous faites, vous pouvez réfléchir et vous découvrez qu'il y a quelque chose à la racine, une source cachée qu'on appelle volonté. Parce qu'ordinairement, avant de découvrir la volonté, vous avez appris le mot. C'est ça la chose terrible. Nous avons un vocabulaire philosophique sans vraiment rien compris. Et nous utilisons ce vocabulaire philosophique, quelquefois sans avoir rien compris. Alors, le propre de l'examen, c'est de voir si l'utilisation des mots philosophiques correspond à quelque chose de profond. Vous voyez ? Des petites interrogations pour tout de suite. Est-ce que le mot volonté restait un mot? Qu'est-ce que c'est que la volonté? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Qu'est-ce que c'est que la qualité? Et nous entrons dans notre sujet. Nous avons vu toutes les descriptions de la qualité, multiples, intérieures et extérieures. Réfléchissez beaucoup à ça. Et vous verrez que les qualités internes que vous découvrez dans vous-même vous donnent un sens extraordinaire du mouvement. Pas de pareil. Les qualités externes que vous saisissez en dehors des sensibles communs vous donnent beaucoup plus le sens de quelque chose de net, d'indivisible. C'est curieux, ça, du reste. Tu restes, on ne fait pas d'induction intérieurement. Là, on est au niveau de la description. Mais ce serait très intéressant à creuser. Je crois qu'il y a là quelque chose. Que ceux qui sont pour le primat d'intériorité et ceux qui sont pour le primat de l'expérience externe. Vous voyez, les deux grands courants, aristotélicien et platonicien. Et pratiquement, il y a deux courants philosophiques, vous savez, avec des quantités de petites satellites. Mais au fond, il y a deux grands courants. On s'inscrit dans l'un, on s'inscrit dans l'autre. Et c'est curieux de voir que si je suis très influencé par le point de vue de l'expérience interne, j'aurai instinctivement, il me semble bien, un très grand sens du mouvement du devenir de l'évolution. Et au contraire, c'est une philosophie de la souplesse, si vous voulez. Au contraire, ceux qui sont pour l'essence et pour l'expérience externe ont beaucoup plus le sens de la détermination. Je pose ça à titre de recherche. Ce que je vous ai dit, c'est très important, toute cette phase descriptive de la qualité. C'est un peu artistique, mais c'est très intéressant de voir qu'au fond, notre monde est un monde qualitatif. Et pour éviter le primat de la quantité, c'est pour ça que j'insiste, puisque nous sommes dans un monde quantitatif, terriblement quantitatif. Donc nous devons redécouvrir la qualité. Et redécouvrir la qualité tout le temps de ces deux aspects, qualité externe, qualité interne. Portons en nous un monde qualitatif. Et nous voyons au dehors de nous un monde qualitatif. Alors, chercher aussi, c'est intéressant à faire, et ça on peut le faire soi-même, c'est une petite recherche qui vous éveille un peu à la philosophie. Quel est, parmi les sensibles propres, le sensible propre qui domine pour la vision, pour l'ouïe, pour l'odorat, pour le goût, pour le toucher? Parce que les touchés sont multiples, le froid et le chaud, les deux extrêmes. Alors, est-ce que c'est le chaud qui domine, est-ce que c'est le froid? Vous avez des mentalités froides et vous avez des mentalités chaudes, n'est-ce pas? Et donc, il y a le chaud et le froid, comme il y a le cuit et le cru, n'est-ce pas? Ça fait partie de ces différents aspects. C'est vrai, le cuit est autre chose pour le toucher que le cru. Et c'est intéressant, parce que ça, c'est un domaine d'une très grande richesse, oui, bon, de préciser. La description ne me fait pas comprendre qu'est-ce que c'est que la qualité. Et je dois me poser la question. Qu'est-ce que c'est que la qualité? Le tiesti de la qualité. Vous voyez, quand je me pose la question au niveau philosophie, humaine, c'est-à-dire philosophie de l'art, philosophie éthique, philosophie politique, si je me pose qu'est-ce que c'est que la qualité, la définition de la qualité n'est pas la même. Ça, c'est très important. Qu'est-ce que c'est que la qualité pour la philosophie morale? Instinctivement. Qu'est-ce que c'est que la qualité pour la philosophie morale? C'est la vertu. Vous diviserez les qualités en vertu et en vice. Mais il peut y avoir des vices extrêmement beaux et séduisants. Écoutez Baudelaire quand il parle de la beauté de Satan. Tandis que si vous entendez un homme qui est pris par le point de vue moral, il ne parlera pas de la beauté de Satan. Il dira la hideur de Satan, la laideur de Satan. Mettez-vous le plus loin possible, prenez vos distances, ne vous laissez pas séduire. Voyez, la qualité est différente pour l'artiste que pour l'homme moral. Quand vous dites qu'est-ce que c'est que la qualité? Je crois que pour l'homme moral, la qualité, c'est la vertu. Et pour l'artiste, qu'est-ce que c'est que la vertu ? Qu'est-ce que c'est que la qualité ? C'est la beauté. C'est pas tout à fait la même chose. Et pour l'homme politique, ça dépend pour qui ? Pour Machiavel, c'est l'habileté. L'habileté. Faut être habile au plan politique. Et Machiavel, c'est net. Pour Aristote, c'est pas l'habileté. C'est la vertu du citoyen. La concordia entre les citoyens. Qu'on n'est pas quelqu'un qui tout le temps vienne diviser, critiquer. La critique, c'est très bien, mais c'est agaçant au plan politique, et au plan moral, et au plan artistique, puisque ça fait con. Quelqu'un qui est tout le temps critique, c'est l'infécondité, c'est la stérilité. Il faut dire ça aux gens critiques, qui critiquent tout le temps. Vous savez, on leur dit, mais faites quelque chose, on pourra vous critiquer. Ne critiquez pas tout le temps les gens qui font quelque chose. Ça, il faut être farouche là-dessus. La qualité pour la philosophie de la nature, c'est les contraires. La qualité pour la philosophie du vivant, c'est l'opération vitale. La qualité pour la philosophie première, qu'est-ce que c'est que la qualité ? Vous voyez, si je suis un tout petit peu attentif, je vois que chaque partie de la philosophie définit une qualité et ne définit pas la qualité. Or, en philosophie première, et c'est pour ça qu'il doit y avoir une philosophie première de la qualité, en philosophie première, je veux définir la qualité. Qu'est-ce que c'est que la qualité ? Et en pensant à ça, je définis aussi bien le beau que la vertu, que la concordia, et ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est que la qualité ? Du point de vue de l'être, qu'est-ce que la qualité me fait comprendre de l'être ? Par rapport à vous, puis par rapport à votre voisin. Et quand vous voyez un être très qualifié, vous dites quel bel être. C'est vrai, c'est ce que vous dites par rapport en voyant un cheval de race. Vous dites quel beau cheval. En voyant ça, vous voyez le taux Einstein du cheval. L'être du cheval se manifeste. Ah ! La qualité n'est-elle pas premièrement la manifestation de l'être ? Je crois que c'est ça. Première approche de la qualité au plan philosophie première. La manifestation de l'être. C'est pour ça que la qualité me permet, ou plus exactement, que la qualité est saisie par une connaissance immédiate. C'est vrai, il y a quelque chose dans la qualité qui implique toujours une fraîcheur de l'être. Vous voyez, quand vous voyez un gosse, un tout petit enfant, sa qualité, c'est pas la vieille peau d'un hippopotame, hein. C'est pas tout à fait ça, c'est la fraîcheur de cette peau extraordinaire. Un petit museau merveilleux, c'est extraordinaire, comme la fraîcheur, c'est qualitatif. Je crois que la première qualité de laquelle, la première définition de la qualité, c'est la manifestation de ce qui est. C'est connu tout de suite. Mais ce n'est pas encore ce qu'est la qualité. Je dirais, c'est une première approche sensible. Si je prends tout de suite la qualité la plus ultime, c'est ce que je dois faire pour comprendre ce que c'est que la qualité, la plus ultime, quelle est la qualité dominante, la qualité des qualités, au point de vue philosophique, l'habitus de sagesse. Vous avez donc la manifestation, le petit nez d'un tout petit enfant, le regard d'un tout petit enfant, la figura d'un tout petit enfant. C'est vrai, c'est quelque chose de très qualitatif. un petit mouton, comme c'est qualitatif, un petit agneau, c'est extraordinaire. Tandis que la vieille maman, oh là là, tandis que le petit mouton tout de suite. Oui, la figura, c'est curieux que la figura qualitative demande cette espèce de fraîcheur. Demande quelque chose qui n'est pas abîmé. Oui, il y a quelque chose qui n'est pas abîmé, qui n'a pas été abîmé. La fraîcheur, la qualité de vivre le matin sur les arbres. Une neige qui n'a pas encore été abîmée. Réfléchissez à ça, parce que c'est très important pour comprendre la qualité la plus sensible qui apparaît, puisque c'est la manifestation de l'être dans l'ordre sensible. Puis l'ultime, vous voyez, le premier dans l'ordre génétique, le premier dans l'ordre de nature. L'habitus de sagesse. C'est à partir de là que je peux saisir ce qu'est la qualité. Vous voyez, une induction, petite induction. Qu'est-ce que c'est que la qualité? Oui, une induction très simple, mais quand même, petite induction, je remonte pour savoir ce qu'est la qualité. Je prends exprès les deux extrêmes, comme toujours. Dans une bonne induction, prenez les deux extrêmes. Ce genre d'induction, vous voyez, ce genre de recherche pour comprendre ce qu'est la qualité. Parce que la qualité qualifie l'être, on a dit donc qu'il y a quelque chose, c'est pas un principe, c'est sûr. Mais la qualité peut être principe d'opération vitale. Donc elle a quand même quelque chose avec le principe. Et puis la volonté, c'est une qualité, l'intelligence, c'est une qualité. Donc ça peut être un principe dans les opérations vitales. Et dans le monde physique, la qualité fait la tension. Les contraires. Alors qu'est-ce que c'est que la qualité? Je reviens. Oui, elle manifeste. Et quelquefois, elle ne manifeste pas du tout. Mais elle opère. Elle est source d'une opération qui a toute sa fraîcheur. Oui, je pourrais transposer métaphoriquement tout ce que je dis sur la figura dans le monde sensible à cette habitus, qui d'une certaine manière est encore une figura, mais tout intérieure. L'habitus modèle mon intelligence. Et l'habitus de sagesse donne à mon intelligence une figura particulière. Le besoin des sommets. Je ne peux pas m'arrêter. Quand j'ai l'habitus de sagesse, je ne peux pas m'arrêter en route. Le savant s'arrête, mais le sage, non. Il va tout de suite tout en haut. Vous voyez, il y a quelque chose de la figura. Saisir ce que l'intelligence peut dire d'ultime. Pousser les exigences de la connaissance le plus loin possible, ça fait partie de la sagesse. Donc, mettre toutes les énergies de mon intelligence, toutes mes capacités intellectuelles, les mettre au service de la contemplation. C'est ça l'habitude de sagesse. Je ramasse toutes ces énergies au service de la contemplation. Parce que je suis attiré vers celui qui est l'absolu. Je ne peux pas m'arrêter en route. Ça, c'est l'habitude de sagesse. L'habitude de sagesse me permet, voyez, au plan philosophique, une certaine contemplation de Dieu. Une certaine présence. Dieu est absolument simple. C'est la première contemplation. Ayant découvert que Dieu existe, je peux dire Dieu est absolument simple. Dieu est infini. Donc ça donne à mon intelligence une figura, une manière d'être. L'habitude de sagesse est dans l'intelligence. Dans une intelligence qui assume l'amour, C'est pas une intelligence logique. Pas du tout. La logique, c'est bien aussi une qualité, c'est un art. Mais ça n'a pas du tout la finesse de la sagesse. La logique reste grosse à côté de la sagesse. Elle est le serviteur de la sagesse. Et parce qu'elle est le serviteur de la sagesse, lorsque la sagesse est présente, la logique se tait. La logique ne pénètre pas dans la sagesse. C'est ce qui fait mieux comprendre la limite de la logique. On lui dit, là n'entre pas. C'est le lieu de la contemplation. La logique servira de base. Pour ceux qui construisent les bases, c'est très important. Les fondements. Et n'entre pas dans le sommet. Parce que la logique ne me dit rien du réel. Un logicien qui n'est que logicien risque toujours de planer. Et il ne va pas jusqu'en haut, vous voyez. Il plane. Je crois que j'ai ces trois habitus. J'ajouterai ce troisième, vous voyez, était ce triangle par lequel on va chercher qu'est-ce que c'est que la qualité. Vous avez donc la figura liée à la beauté, c'est très proche. Vous avez la sagesse acquise, l'habitus de sagesse. Puis vous avez la logique, l'art, des arts. Satan m'a dit ça. La logique, c'est l'art des arts. Je crois que c'est les trois choses dominantes. Un triangle assez fort. Pas commun, du reste. Mais les trois sont des qualités. Qualité sensible, qualité purement spirituelle et intérieure, et puis la logique, la qualité d'une intelligence qui a ses bases. Vous allez me dire, oui, c'est très bien, mais alors où est l'amour là-dedans comme qualité ? Et bien l'amour est présent dans la sagesse. Alors vous auriez, dans le sens de l'amour, une qualité particulière qui est l'amour d'amitié. Est-ce que l'amour d'amitié implique un habitus ? Grave question. Mettons-le, si vous voulez, en mettant un petit point d'interrogation. Parce que l'amour d'amitié implique, en vrai, l'habitus. L'habitus d'amour. Comme c'est curieux de dire un habitus d'amour. L'habitus d'amour d'amitié. Ceci, c'est pour mieux comprendre. Hein. C'est vrai, parce que la volonté a un habitus très net, c'est la justice. Alors c'est peut-être celui-là que vous devriez mettre. Je dis ça, c'est pour que nous puissions mieux saisir ce qu'est la qualité à partir des extrêmes. L'habitus de justice, c'est peut-être celui-là qu'on doit mettre pour comprendre bien ce que c'est que le point de vue de l'habitus de la volonté. Ou si vous aimez mieux, l'habitus de tempérance. C'est les vertus. La sagesse étant au-delà des vertus. Elle est vertu. Elle est vertu des vertus. Les vertus ne sont que des dispositions par rapport à la sagesse. On peut être extrêmement vertueux et ne pas avoir un pouce de sagesse. Ça existe. des gens comme ça. Et on peut être, est-ce qu'on peut être sage sans avoir la vertu? Je parle de l'habitude de sagesse acquise. Bien non. On peut pas. Faut au moins avoir à l'état germinal les vertus pour avoir l'habitude de sagesse. Alors, vous voyez comme c'est complexe, hein, et que c'est difficile de voir qu'est-ce que c'est que la qualité. Quand je vois cet aspect, je disais tout à l'heure, la manifestation, c'est très vrai, c'est ce qui apparaît tout de suite. Donc je mets manifestation, c'est déjà quelque chose. L'habitude de sagesse, qu'est-ce qui... C'est... Qu'est-ce que c'est que la qualité dominante de sagesse? Est-ce que je peux dire que c'est la noblesse? La nobilitas, la noblesse. L'intelligence donne le sens de la dignité, et quand l'intelligence est poussée jusqu'au bout, dans l'habitude de sagesse, il y a une noblesse. C'est vrai, il y a quelque chose, vous voyez, de secret et de noble. C'est juste l'inverse de la manifestation. Il y a quelque chose de très secret dans la sagesse. Parce que la sagesse porte tout le temps des secrets. C'est impossible autrement. Alors il y a quelque chose de secret. Et c'est vrai que la qualité intériorise. Alors vous avez ces deux aspects extraordinaires, la qualité qui manifeste et la qualité qui intériorise. Il n'y a rien de plus intérieur que la sagesse. Il n'y a rien de plus secret que la sagesse. Et la sagesse vous fait tout de suite saisir les secrets. Et elle les garde. Les secrets, c'est les liens de mon âme avec Dieu. Avec la simplicité de Dieu, avec l'infini de Dieu, avec la bonté de Dieu, c'est la contemplation. La contemplation est toujours secrète. Vous ne pouvez pas partager votre contemplation. C'est quelque chose de secret. Vous pouvez en dire quelque chose, mais c'est toujours quelque chose de secret. Et un être est secret dans la mesure où il contemple. La logique. L'art des arts. Que met la qualité habitus art. Ça met une capacité merveilleuse pour réaliser une œuvre. Donc c'est beaucoup plus orienté aussi vers la manifestation. Il y a quelque chose de secret dans l'art, mais dans la logique, il n'y a pas de secret. Non, ça, les logiciens sont des êtres de communication et d'efficacité. C'est toujours ce qu'il y a de plus rapide comme chemin et ce qu'il y a de plus efficace. Ce n'est pas la beauté du chemin. Non, ça ne s'arrête pas. Un logicien, ça tourne, le raisonnement. Et ça doit tourner. Avec facilité, grâce à l'habitus. Alors c'est quoi? Quelle qualité particulière d'analogique? Une habileté. C'est une habileté, une virtuosité. Vous allez me dire, mais c'est pas uniquement l'art, ça. L'art des arts, c'est la virtuosité. L'art au sens fort est beaucoup plus... quelque chose de plus profond, mais la logique, art des arts. C'est saint Thomas qui dit ça. C'est beaucoup d'honneur pour la logique de s'appeler art des arts. Je trouve, moi, personnellement. Je comprends très bien que saint Thomas fait ça au Moyen-Âge, on aimait beaucoup la logique. Je crois qu'aujourd'hui, on voit les abus de la logique, alors on est beaucoup plus prudent. Et j'aime mieux un artiste peintre qu'un logicien, j'avoue. Pas très, très logicien, un artiste peintre. curieux, hein, mais c'est toujours l'œuvre. Et il y a toujours quelque chose d'une certaine habileté de l'artiste. Toujours. Une habileté qui est à des niveaux différents. Et au fond, c'est peut-être toujours une très grande habileté. Une habileté qui permet de... Parce que l'habileté, c'est quoi? L'habileté, c'est un jeu de relations. On est habile quand on arrive à mettre un jeu de relations. Et on est très habile, par exemple, en politique, quand on met deux personnages importants l'un en face de l'autre, et qu'on arrive à faire ces rencontres. Et à partir de là, deux silex qui se frottent, il y a une étincelle. N'est-ce pas? Et bien, l'habileté consiste à frotter deux silex, deux bons silex, pour faire que ça fasse quelque chose de très... un feu d'artifice, quelque chose de très pétillant. Donc il y a l'habileté. L'habileté n'est pas étrangère à la qualité. Et puis alors, la vertu, c'est le sérieux de la qualité. Si par là vous touchez l'habileté et le jeu, la vertu fait comprendre le sérieux de la qualité. Vous voyez que tout de suite, hein, ça je crois qu'on peut être d'accord pour mettre ces quatre comme physionomie particulière, vous pouvez en mettre d'autres. Hein. C'est pas absolument... C'est normal, les qualités, c'est la diversité, on l'a vu la dernière fois, dans l'analogie. Vous voyez que la diversité est très très grande. Là, vous touchez les choses essentielles de l'homme. Le corps, la plus grande intériorité de l'intelligence unie à l'amour, la volonté, et l'habileté. L'habileté à l'égard de tout. Vous touchez le jeu. Les gens très habiles aiment de jouer. Parce que c'est en jouant qu'ils montrent leur habileté. Et le jeu représente quelque chose de très humain. Et le sérieux de la justice. Les hommes de la loi. Les hommes du droit. Le sérieux de la justice. C'est très sérieux. Un magistrat. Ça doit être sérieux. Parce qu'ils doivent porter un jugement sur ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Alors, qu'est-ce que c'est que la qualité? Qu'est-ce qui permet de toucher ces diverses qualités? Vous pourriez me dire, il n'y a pas de définition de la qualité puisque c'est analogique. Donc restons dans la diversité, c'est pas suffisant. Il y a quelque chose qui doit permettre d'unir cette sorte d'éclatement de l'être. Parce que c'est un éclatement de l'être. Depuis la sagesse jusqu'à la figura, jusqu'à la justice, jusqu'à la logique. C'est quand même un éclatement de l'être assez étonnant. Ça montre toute la richesse de l'être. Alors, la qualité n'est-elle pas l'avoir de l'être? L'avoir proprement dite. Ce qui permet à l'être une certaine richesse. En faisant bien comprendre que ce n'est pas une richesse d'accumulation. Vous retomberiez dans la quantité. C'est une richesse, c'est une richesse, un avoir qualitatif. Alors vous voyez, c'est donc pas la richesse qui définit la qualité, puisque vous êtes obligé de dire une richesse qualitative. Il y a des richesses quantitatives et des richesses qualitatives. La qualité, c'est mon premier avoir, je crois. C'est peut-être pour ça, vous voyez, que la qualité suprême, c'est l'habitus. Et l'habitus, c'est quand même un avoir. C'est un avoir très intérieur, très profond, un avoir qui qualifie ce qu'il y a de plus moi-même. C'est quelque chose qui vient s'ajouter, c'est pour ça que je dis un avoir. Une vraie qualité, c'est toujours quelque chose qui vient s'ajouter. C'est quelque chose qui est de l'ordre, on pourrait dire, d'une certaine gratuité. Il faut arriver à qualifier cet avoir de la qualité. Alors, comme je disais tout à l'heure, la noblesse. La noblesse dans un monde démocratique, c'est pas très commode, eh bien. Pour saint Thomas, c'est très simple de dire la nobilitas. La qualité, c'est la nobilitas. Vous voyez, dans un monde démocratique, on parle quand même d'ouvrier qualifié. Alors on pourrait parler de démocrate qualifié, donc de démocrate aristocrate. Ça fait quand même quelque chose de très particulier. C'est curieux, ça, c'est très curieux ces choses-là. Parce que la démocratie nous donne le sens de la quantité, et l'aspect aristocratique nous donne le sens de la qualité, normalement. Normalement. Parce que la corruption de ce qu'il y a de meilleur est de pire. Et c'est vrai, quand il n'y a plus cette qualité, alors, c'est la qualité, c'est quoi? Je cherche avec vous, la qualité, c'est quoi? Je crois que métaphysiquement, la qualité, c'est la forme. Et j'ai donné des descriptions déjà plus proches, manifestation, nobilité, avoir. Il y a quelque chose encore plus profond. La qualité, c'est le domaine de la forme. Alors, on va vérifier si c'est bien ça. La forme, qu'est-ce que c'est? C'est la détermination première de l'être. La substance est source de toutes les déterminations. Elle est source. Elle n'est pas détermination. C'est pour ça que je crois que c'est la forme. La forme fait différer tout de suite. La forme apporte une distinction. Une distinction. Une noblesse. Une distinction. Et la distinction de l'intelligence. C'est bien ce que donne l'habitude de sagesse. Une intelligence qui a quelque chose d'un peu de raffiné. C'est la sagesse. C'est la distinction. La beauté, c'est bien la forme aussi, c'est l'éclat de la forme. C'est la forme qui éclate. La logique, c'est la précision. C'est la précision. Et l'art implique une détermination et une précision. Au contraire, l'inverse, le fout le camp. Il y a les deux genres, hein, l'art classique et l'art romantique. Et au fond, c'est encore autour de la forme. La détermination, la précision. Et la logique, c'est la précision. Grâce à la logique, on atteint une précision plus grande. Ça vient raboter pour une précision plus grande. Et quand il n'y a que la logique, vous prenez comme précision, et qu'il n'y a pas la contemplation, c'est très ennuyeux. Et puis, le point de vue de la justice, l'égalité, c'est encore une détermination, c'est encore une forme. De sorte que je crois que nous pouvons dire que la qualité, c'est la forme par rapport à l'être. La forme première. Donc la forme qui est forme. Je crois bien que c'est ça qui est la qualité, c'est la forme comme telle. Pourriez-vous demander si la qualité, c'est pas le mode? Ah. On va préciser ces termes par rapport à la qualité, c'est important. Le mode. Est-ce que la qualité, c'est plus la forme ou le mode? Je dis pas la mode, hein. Mais la mode est qualitative, hein, parce que c'est un art. Et là, il faut recenser la différence entre le mode. Saint Thomas parle toujours du mot douce. On parle tout le temps du mot douce et de la forme. Alors le mode fait appel à la mesure, dit Saint Thomas. Mais la mesure n'est pas le mode. Mais la qualité, au plan proprement philosophique, elle est relative à la substance. Si elle est relative à la substance, elle n'est donc pas forme absolue. Elle est mode. Qu'est-ce qui mesure la qualité? C'est la substance. On verra ça la fois prochaine, c'est-à-dire demain, je crois.